Dernier chapitre 8. Pendant cette délibération, les gendarmes firent retirer les accusés qu'ils ramenèrent dans le préau de la conciergerie. Le sage, qui avait recommencé ses menaces contre Miko, fut enfermé dans une cellule. Tous les autres restèrent dans la cour, attendant l'arrêt qui allait dicter leur sort. Les uns pleins d'espoir, les autres tristes et abattus. Soufflard avait été s'asseoir sur un banc, immobile, les dents serrées, l'œil fixe, brisé de terreur et de fatigue. Alors Miko s'approcha doucement de lui, et après s'être assuré que les gardiens qui veillaient sur le préau étaient loin d'eux, il lui dit à voix basse, « Soufflard, j'ai une proposition à te faire. » En entendant Miko lui parler de proposition, Soufflard releva la tête. « Qu'as-tu à me proposer, mauvais espion ?» lui dit-il. « Tu sens la guillotine, n'est-ce pas ?» demanda brusquement Miko. « C'est à toi que je devrais le cadeau. »« Possible, tu m'avais pris ma femme, me suis vengé. »« Allez, après, viens au fait, » dit Soufflard impatient. « Dans une heure, » continua Miko, « les juges vont te conter leur histoire. » Aussitôt, on te flanquera la camisole de force dans laquelle tu sueras de peur pendant 40 jours, jusqu'au moment où ils te couperont le cou, mon bonhomme. « Assez !» écria Soufflard, effrayé par ce tableau de l'avenir qu'il attendait. « Ils te faucheront, vieux, car tu n'as pas de grâce à espérer, » poursuivit Miko. « Tais-toi !» répéta Soufflard, se redressant convulsif. « Tais-toi, chien hargneux !» Angoisse, prison, camisole de force, échafaud, j'ai le moyen de te faire éviter tout cela. Si tu as un peu de courage, ajouta Miko. Le visage de Soufflard s'éclaira subitement d'une lueur d'espoir. Parle, fit-il vivement. Miko vit que Soufflard avait compris qu'il lui offrait le salut. Il secoua la tête. Oh non, tu te trompes, vieux. Il faudra tout de même sauter le pas, mais je veux seulement t'offrir le moyen de gagner 40 jours et de faire banqueroute à la guillotine. Ah oui, des moyens de suicide, précisément. Va te promener, double brute, cria Soufflard, qui avait un instant entrevu sa liberté dans les paroles de Miko. Ah, tu vas bien t'ennuyer pendant les 40 jours qui précèdent la cérémonie. « Moi, je croyais te faire plaisir en te mettant à même de te rater. Je me suis trompé. »« Alors, mettons que je n'ai rien dit, » répliqua Miko en lui tournant le dos et en reprenant sa promenade dans le préau. Une demi-heure s'écoula dans l'épouvantable anxiété de l'attente qui minait Soufflard. « Sont-ils là pour se décider à faire couper le cou à un homme ?» se disait-il. « Après tout, je risque rien à accepter. » Si je ne suis pas condamné, je n'utilise pas son moyen. Mais si je dois être guillotiné, Miko a raison, je m'évite une longue angoisse. Et d'une imperceptible signe, il appela Miko qui le guettait. Quel est ton moyen ? Demanda-t-il. Du poison, dit l'autre. Ah, on souffre ? Oh, fit Miko, une minute à peine, l'histoire d'un morceau de pain trop gros qu'on avale. « Et où est-il ?»« Là, » fit Miko, après un regard jeté au gardien qui veillait à l'autre bout du préau. Et vivement, il entr'ouvrit sa main dans laquelle Soufflard aperçut un petit paquet long enveloppé d'une mince feuille de papier. À cause de ces dénonciations, Miko n'avait pas été soumis à tous les détails de surveillance et de fouille que subissent les prisonniers. Il avait donc pu facilement soustraire au regard le paquet d'arsenic qu'il avait volé à la fille Ramelet. « Quelle est donc ta drogue ?» demanda Soufflard. Miko, qui savait quelle terrible torture donne l'arsenic, ne se souciait pas d'effrayer Soufflard. « Bon, ma foi, j'en sais rien. »« Et on souffre pas ?» répéta l'autre. « V'là, comme un coup de foudre !» répondit Miko, qui se disait en lui-même. « Toi, quand tu l'auras dans le tuyau, tu verras bien si c'est de la guimauve. Alors, on donne, fit Soufflard, décidé à éviter ainsi le bourreau. Miko retira doucement la main. « Ah non, » fit-il, « donnant, donnant. »« Donnant quoi ?»« Parbleu, ma redingote que tu as sur le dos. »« J'y tiens. C'est une superstition de ma part, mais je suis persuadé qu'elle me porte bonheur. »« Depuis qu'on me l'a pris dans le caveau, le jour de notre duel au couteau, rien ne m'a réussi, et je suis certain que si je suis dedans tout à l'heure à l'audience, j'y gagnerai des années de prison en moins. » Es-tu bête, Miko? Possible, c'est une idée fixe. Il faut changer de vêtements. Ne demande pas mieux, mais comment le faire? Rien de plus facile, dit Miko. Tes deux vêtements sont de même nuance. Tiens, regarde, je place le paquet dans cette poche où tu le trouveras. Maintenant, tu vas avoir l'air de devenir enragé après moi contre cette brute de lessage. Nous mettons vite habit bas pour nous flanquer un coup de chausson. Les gardiens accourent pour nous séparer. Nous nous trompons de vêtements, nous habillons. Bon, c'est dit. Avant un dernier conseil, quand nous allons rentrer au tribunal, méfie-toi pour ton paquet, car on nous fouillera. Bon, sois tranquille. Y es-tu? Allons-y. Et en 5 secondes, les deux prisonniers mirent habit bas et tombèrent en cette garde des tireurs de savates qu'on connaît. Les gardiens accoururent et les séparèrent avant le premier coup porté. L'échange des vêtements se fit. En retrouvant sa redingote, Miko en avait adroitement palpé le collet. Une molle résistance qu'il sentit fit épanouir sa figure. Ils peuvent m'envoyer au bagne, j'ai là de quoi m'évader, murmura-t-il. Au même instant, la sonnette du préau retentit. C'était le signal parti du tribunal, et la voix du brigadier-chef cria « Envoyez les hommes des assises !» Les gendarmes reprirent les prisonniers de l'autre côté du guichet pour les conduire de nouveau dans la petite salle d'attente à côté du tribunal dont nous avons précédemment parlé. Dans l'histoire des prisons, il est fait longue mention de cette salle où les accusés, près d'entendre la déclaration du jury, éprouvent une terrible angoisse. Ils sont là, assis pendant 10 minutes d'une attente anxieuse et font toutes sortes de conjectures. C'est le dernier moment d'espérance. Au moindre bruit d'une porte qui s'ouvre, l'anxiété redouble. On tend l'oreille, on ne dit mot, parce que le premier appel s'adresse aux accusés que le jury vient d'acquitter. C'est comme au tirage d'une loterie pour les émotions. On a l'œil fixé aux lèvres de l'huissier. Chacun cherche à y saisir son nom. Les accusés, appelés les premiers, sont aussi certains de leur acquittement que ceux qui restent le sont de leur condamnation. Dans le procès qui nous occupe, leur premier appel fit lever Paulier, Guérard, Bicherel et la femme Ardel. Ben « Voilà qui prennent la contre-marque de sortie, » dit le meunier, en voyant partir ceux que le tribunal allait acquitter. Bientôt, l'huissier reparut. Ils reprirent leur place au tribunal. Et ils écoutèrent la déclaration du jury, dont les réponses aux 157 questions posées furent presque toutes affirmatives. Après la lecture de ce verdict, la cour se retira pour délibérer sur l'application de la peine, et les accusés furent encore reconduits dans la salle d'attente pour y attendre l'arrêt de condamnation. Dans le mouvement de sortie, Miko trouva moyen de frôler Soufflard. « Gare au paquet !» lui souffla-t-il. « Voilà l'instant de la fouille !» C'est effectivement à ce moment qu'on visite les accusés pour s'assurer s'ils n'ont pas sur eux une arme dont, en s'entendant bientôt condamnés, ils se frapperaient ou voudraient frapper les juges. À ceux qui portent des sabots, les fait retirer depuis le jour où un condamné lança les siens à la tête du président. Soufflard fut donc rigoureusement fouillé, mais depuis 12 jours que durait le procès, on était tellement habitué à lui voir la main sous mouchoir qu'on négligea de le palper. Durant cette dernière attente, le sage affecta encore de plaisanter avec Soufflard. Ben, ils sont en train de nous préparer une jolie petite friture. Nous sommes off du vilain côté de la poêle, dit-il. Les gueux, fit la volard, vous verrez qu'il ne reviendra pas à l'idée de me renvoyer chez moi avec une indemnité et des excuses. Après une demi-heure de délibération, la sonnette annonça que la cour allait rentrer en séance. Les accusés furent amenés à leur banc. Ainsi qu'il l'avait fait depuis le commencement des débats, Soufflard le mouchoir sur la bouche, s'appuya les coudes sur la barre placée devant lui et écouta. Alors, d'une voix solennelle, le président lut l'arrêt qui condamnait Marchal et Calmel à 5 ans de travaux forcés, Alliette à 6 ans de réclusion, Le Meunier à 7 ans de réclusion avec exposition, Mico à 8 ans de réclusion avec exposition, La Volard à 10 ans de travaux forcés, Le Viel à 20 ans de travaux forcés avec exposition, et Soufflard et le Sage à la peine de mort. À cet arrêt, le sage demeura impassible. Quant à Soufflard, au moment de sa condamnation, il avait appuyé son mouchoir plus fort sur sa bouche, puis il l'avait retiré. Alors il avait baissé la tête, et on l'avait vu remuer les lèvres comme s'il parlait tout bas. Aussitôt la condamnation prononcée, les gendarmes firent sortir les accusés pour les conduire à la conciergerie. Arrivé dans la salle d'attente, Soufflard s'appuya tout à coup contre le mur. Par cet arrêt, Soufflard, qui marchait en tête, suspendit la marche de tout le groupe. « J'ai soif, » dit-il d'une voix brève. Un gendarme le poussa pour le faire avancer dans le couloir. « Marchez, lui dit-il, vous allez boire en arrivant à la conciergerie. » Soufflard se cramponna à l'espagnol d'une fenêtre et répéta encore « J'ai soif, j'ai soif !» Il y avait un tel accent dans cette voix rauque qu'un gendarme attendri quitta l'escorte pour retourner dans la salle d'attente où se trouvait une fontaine avec un gobelet qu'il apporta plein d'eau. Soufflard le but d'un seul trait. « Sapristi, il avait soif !» dit le meunier. « Il a avalé une condamnation trop salée, c'est cela qui l'altère !» répliqua la volard. On reprit la marche en silence. Les pas retentissaient sur la dalle sonore des couloirs, et on entendait le bruit des sanglots d'Aliette marchant à la fin de la troupe, à côté de la volard, qui ne se doutait même pas du repentir de la belle blonde, et qui lui répétait « Mais les juges ne sont plus là, ma petite, tu peux fermer tes écluses. » En écoutant ses sanglots, Soufflard sembla disposé à s'arrêter encore. « Oh, je veux la revoir une dernière fois, » murmura-t-il. Mais tout à coup, il haussa les épaules et reprit sa marche en le disant tout bas. Oh, « À quoi bon? Tout est fini pour moi. » Au bas de l'escalier du tribunal, on trouva les soldats du poste de service commandés pour faire la faction devant la cellule des condamnés à mort. Le guichet de la conciergerie se referma sur les prisonniers que les gendarmes avaient remis au geôlier. On sépara aussitôt les autres condamnés de Soufflard et le Sage, puis les gardiens s'emparèrent de ceux-ci pour leur mettre la camisole de force. Le Sage, cela se laissa faire assez gaiement. « Y a-t-il du bon sens à empaqueter ainsi un homme ?» dit-il. « Et pourquoi ne pas m'entourer tout de suite d'un papier d'argent ? J'aurais au moins l'air d'un saucisson de lion. » À la vue de la camisole de force qu'on lui présentait, la fureur s'empara de Soufflard, qui se mit à proférer des injures contre les juges et les jurés qu'il avait condamnés. Mais soudainement, une horrible contraction décomposa les traits du condamné, qui se prit la poitrine de ses deux mains convulsives en y criant « Oh, j'ai soif, à boire, à boire !» L'altération du visage était effrayante. Des dents serrées laissaient échapper une écume jaunâtre et les yeux cerclés de noir étaient injectés de sang. La douleur secouait tout le corps du misérable. « À boire, à boire !» hurla encore le condamné. Et avant qu'on pût lui offrir de l'eau, il s'abattit sur le plancher. Il se roula dans une effroyable convulsion. Du premier coup d'œil, le chef geôlier comprit la vérité. « Vite un médecin » cria-t-il, « cet homme s'est empoisonné !»« Tiens, le farceur, il prévient pas les camarades !» s'écria le sage, insensible aux douleurs de son compagnon. La souffrance était si violente qu'il fallut, avec le manche d'un couteau, desserrer les dents du condamné pour lui faire avaler une tasse de lait. Cette boisson parut soulager un instant Soufflard, qui eut pourtant la force de répondre quand le gardien-chef lui demanda « Quel poison avez-vous pris ?»« Il aura fait sa régalade lui-même, » dit le sage. « Dans les prisons, c'est le secret de Polichinelle. » On emporta Soufflard sur un lit où les premiers soins lui furent administrés par un interne accouru de l'Hôtel-Dieu, qui ordonna un vomitif. Les déjections furent soumises à l'action du feu, et la forte odeur d'ail qui se dégagea aussitôt révéla que le poison pris était de l'arsenic. À l'interne vint se joindre le médecin de prison, et le plus énergique traitement fut appliqué au malade qui, avec un sourire horrible, répétait ironiquement « Vous perdez votre temps, mon affaire est toisée !» L'arsenic a cette particularité remarquable que plus la dose est forte, plus la mort est lente à venir. Plus tard, l'autopsie révéla que le condamné en avait absorbé de quoi empoisonner au moins 3 hommes. Les souffrances furent épouvantables, et malgré tous les soins de médecin, rien ne put calmer l'horrible supplice du misérable qui pendant 16 heures se tordit en jurant et blasphémant. Quand l'aumônier des prisons, l'abbé Montès, arriva pour lui apporter les consolations religieuses, Soufflard ne cessa de maudire Mico, qu'il accusait d'être l'auteur de tous ses maux. Dans un des courts répits que lui causaient les convulsions, il parut s'attendrir au souvenir d'Aliette qu'il avait entraîné avec lui. On profita de cet instant de calme pour tâcher de lui arracher des aveux. Il nia qu'il fut complice de l'assassinat de la rue du Temple. « N'ai jamais tué, disait-il. Volé, oui, c'est vrai, mais je n'ai jamais pensé à tuer. » Puis, après un instant de réflexion, il ajouta très vite « Oh, sauf une fois. » Et au milieu des douleurs les plus aiguës, il avoua qu'un jour, il avait jeté sur le point de tuer un artiste devenu plus tard célèbre, M. Durand-Brager, mort il y a quelques années. Ce fait est assez inconnu. À cette époque, l'artiste occupait un atelier dont la toiture en mauvais état laissait pénétrer la pluie dans son local. Il avait réclamé et le propriétaire avait promis de lui envoyer son architecte pour voir les réparations qu'il fallait exécuter. Un beau jour, M. Durand-Brager trouve sur le carré un inconnu qui, le nez en l'air, paraissait inspecter l'immeuble. « Êtes-vous par hasard l'architecte du propriétaire ?» lui demanda-t-il. « Pas précisément. Alors entrez donc dans mon atelier et je vous montrerai le mauvais état de la toiture. Le propriétaire m'avait annoncé votre visite et je vous attendais avec impatience. » L'inconnu visite minutieusement les dégâts. « Très bien, dit-il, je vous mettrai les ouvriers demain ou plus tard. En 4 jours, vous serez satisfait. » Ce point réglé, l'artiste fait les honneurs de son atelier à l'architecte, qui admire surtout la riche collection d'armes que possédait M. Durand-Brager. Tout en causant, l'inconnu s'était rapproché de l'artiste qui, retourné à son chevalet, lui tournait alors le dos. À ce moment, un grognement se fit entendre. C'était le réveil d'un gros chien qui dormait dans un coin de l'atelier. « Oh, vous êtes là, magnifique animal !» dit le visiteur, qui paraissait désagréablement surpris. « N'est-ce pas qu'il est beau ?»« Superbe, et souvent ces chiens-là ne sont que beaux. Ils ne sauraient défendre leur maître. »« Eh bien, » reprit l'artiste, « faites seulement un geste de me toucher, et vous verrez si celui-ci est incapable de me défendre. » L'inconnu leva la main sur le peintre. Aussitôt le chien bondit furieux, montrant deux rangées de crocs formidables. Son maître calma vite cette fureur. « Qu'en dites-vous ? » « Ben, vous avez raison, avec ce camarade-là, il fait pas bon plaisanter, » répondit le visiteur en se dirigeant vers la porte. M. Durand-Brager le reconduisit en lui recommandant bien de ne pas oublier d'envoyer le lendemain les ouvriers promis. Et il revint reprendre son travail, sans se douter que son chien lui avait sauvé la vie, car le prétendu architecte qu'il avait introduit chez lui n'était autre que Soufflard, qui au moment où il avait été surpris sur le carré faisant le guet pendant que ses compagnons dévalisaient l'appartement situé au-dessus de l'atelier. Et comme il la voit plus tard, Soufflard, en voyant les richesses artistiques de l'atelier, avait eu l'idée de tuer Durand-Brager et n'avait reculé dans l'exécration que par crainte du chien. Après 16 heures d'une si terrible souffrance que le corps du misérable, par l'effet du poison, était rapetissé de moitié, Soufflard mourut dans une convulsion suprême. Quand son trépas fut annoncé à Liette, elle demanda à voir une dernière fois le cadavre. On la conduisit dans la cellule où son ex-amant venait de payer toute une vie de forfait par cette épouvantable agonie. La terreur la prit à l'aspect de ce corps tordu et raccourci par la souffrance, et elle ne prononça que ces mots « Comme il est petit !» On apprit aussi cette mort à le sage. Il entra aussitôt en fureur. « Ah, oh, voilà bien une vilaine farce que vient de me jouer Soufflard !» s'écria-t-il. « On se tue quand on est coupable. Il n'a pas agi en bon camarade, car jugez un peu tout le tort que son trépas va me faire pour mon pourvoi en cassation. Les juges se diront... L'autre était coupable puisqu'il s'est tué, donc celui-ci doit être dans les mêmes numéros. Et avec ce raisonnement-là, ils me feront couper le cou. Mais, je répète, Soufflard est un mauvais farceur. » Telle fut la raison funèbre de son complice, faite par le sage. 4 jours après le jugement, les condamnés à mort sont transférés de la conciergerie à la Roquette, où ils vont attendre le résultat de leur pourvoi en cassation. Cette prison est la halte nécessaire entre la cour d'assises et l'échafaud ou le bagne. Elle porte indistinctement le nom de dépôt des condamnés ou de prison de la Roquette. Elle en avait un autre dans l'origine, qui s'est à peu près oublié aujourd'hui, c'était celui de Nouveau-Bicêtre, car elle fut construite pour remplacer cette prison de Bicêtre, si fameuse jadis, qui ne contient plus aujourd'hui que des fous et des vieillards. En 1839, époque de notre récit, elle portait encore ce nom de nouveau Bicêtre, car il y avait à peine 2 ans que les détenus avaient été extraits un beau matin de l'ancien Bicêtre pour venir étrenner la nouvelle bâtisse. Dans l'histoire des prisons, pas un ancien détenu, auquel nous empruntons les détails qui suivent, par un ancien détenu nous apprenons que la prison de la Roquette, qui a coûté 3,5 millions, est bâtie avec un luxe de précaution qui rend les évasions extrêmement difficiles. Non seulement les fondations sont en assises de pierre de taille qui ne laissent pas l'espoir d'ouvrir un souterrain, non seulement aussi les deux murs de ronde qui entourent la prison sont solides et élevés, mais encore on a pris soin d'en effacer les angles au moyen de pierres arrondies, et le bruit court parmi les détenus que l'intérieur est rempli de sable, et de telle sorte que si on imaginait de pratiquer une ouverture, elle serait obstruée à l'instant même par l'éboulement de ce sable. Et avant même d'arriver à ce résultat, il faudrait d'abord avoir étranglé tous les factionnaires des chemins de ronde. Deux cachots, nous dit le même auteur, étaient réservés à l'époque de notre récit aux condamnés à mort. Chacun d'eux comprend la largeur de deux cellules séparées par une grille de fer à barreaux arrondis. D'un côté, on place le condamné à mort et de l'autre, un gardien. Dans le mur de la porte qui longe le corridor, on a percé un large judas à l'usage du factionnaire qui, nuit et jour, veille devant cette porte. Le condamné est conduit dans son cachot par un petit escalier tournant qu'on appelle l'escalier des secours. Il porte la camisole de force, garnie d'excellentes courroies de cuir, dont une désignée sous le nom de martingale, par des épaules où elle se bifurque, passe entre les jambes et vient s'attacher aux mains sur l'abdomen. On lui laisse juste assez de longueur pour permettre au patient d'élever les mains à hauteur du front. L'invention de cette martingale date de l'époque de notre histoire, car ce fut la mort de Lesage lui-même qui donna l'idée d'ajouter cette courroie à la camisole de force et de mettre le condamné dans l'impossibilité de lever les bras au-dessus de la tête. Donc, Lesage avait été transféré de la conciergerie dans le cachot des condamnés à mort de la Roquette. Malgré l'horrible sort qu'il attendait, le bandit était gai et paraissait tranquille. Quand on lui servait son repas, un peu meilleur que l'ordinaire de la prison, il disait au gardien « Oh, on veut que je fasse plus tard du bon boudin, car on m'engraisse avec soin. » Et de loin en loin, il répétait encore « Oh, ce farceur de soufflard m'a joué un bien vilain tour pour mon pourvoi en cassation. » Sans avouer positivement son crime, il ne le niait plus avec la même énergie. Il paraissait par moments résigné à son sort. Tu parais impossible, car il faut tout prévoir. Les nouveaux juges ne reconnaissaient pas mon innocence, disait-il au gardien. Vous verrez, je vous ferai pas ma petite bouche dans la lunette. Enfin, il était si doux et si calme que la surveillance se relâcha un peu. Aujourd'hui, cette surveillance depuis Lesage est devenue incessante. Les gardiens se relaient en cas d'absence et on ne perd plus un seul instant le condamné de vue. Mais à cette époque, le geôlier, placé de l'autre côté de la grille, s'absentait au moment de la distribution des soupes. Et pendant une demi-heure, le condamné restait sous l'unique garde du factionnaire qui, par le vasistas ouvert sur le couloir, devait surveiller le prisonnier. À ce moment-là, le sage se rapprochait toujours de cette ouverture et cherchait à causer avec le factionnaire. Malgré la sévère consigne qui défend de parler, la pitié qu'inspire la terrible situation d'un condamné à mort faisait que bien souvent le soldat répondait à le sage. Celui-ci étudiait sans doute le factionnaire dans un but caché, et depuis 15 jours, il paraissait n'avoir pas encore trouvé l'homme qu'il lui fallait. Enfin, un soir, le gardien partit à la soupe. Le sage courut au guichet et examinait la figure du soldat que le hasard du jour lui donnait pour factionnaire. « Un vrai Jean-Jean !» se dit-il. En effet, de l'autre côté du vasistas, apparaissait une de ces bonnes et naïves figures de troupier crédule. Le sage entama la conversation. « Dites donc, militaire, je parie que vous aimeriez mieux être avec votre bon ami que de vous promener dans le corridor. »« Oh oui, fit le Piu-Piu. Et comment l'appelez-vous, votre bon ami? Je suis sûr que c'est un nom coquet. Cunégonde. Tiens, quel hasard! Oh, c'est le nom de la seule femme que j'ai aimée. Seulement, nous nous sommes séparés parce qu'elle coûtait trop cher à nourrir. Elle s'est mise saltimbanque. C'est elle qui mange des lapins crus en public. Christi, fit Jean émerveillé. Oh, une fière femme! Je m'étais dit que je ne la repasserais pas, et alors je n'ai plus épousé que ma pipe. Fumez-vous, soldat? Parbleu, je suis de Mulhouse, répondit la sentinelle. Ah oui, une rude pipeur dans ce pays-là. Vous êtes bien heureux de pouvoir fumer, dit le sage avec un gros soupir. Le soldat devint attentif. Comme si c'était pas assez de me couper le cou plus tard, poursuivit le sage. On me prive maintenant de fumer. La pitié parut s'emparer du soldat, qui, nouveau débarqué, ignorait que le tabac n'était pas défendu aux condamnés. Ah, soupira le sage, me semble que si je pouvais fumer une toute petite pipe, j'oublierais le sort qui m'attend. Le militaire est un bon mouvement. Dites donc, condamné, quoi? Si je vous passais la pipe que j'ai dans ma poche, que diriez-vous? « Bon, ce serait une bonne action, » fit le sage, évitant de montrer trop d'empressement. « C'est bon, il faudrait la bourrer vous-même, car vous le voyez, mes mains sont prises dans cette camisole de force. »« Bien, je vais vous la bourrer. »« Alors, il faudra aussi me l'allumer, » ajouta le sage. Le factionnaire alluma la pipe à la lanterne du corridor et revint l'attendre au condamné à travers le guichet. Le sage approcha d'abord vivement sa face pour prendre la pipe entre les dents, puis il se recula aussitôt. « Non, militaire, non, je réfléchis, je refuse. Car malgré tout le bonheur que j'aurai à griller une pipe, je ne veux pas vous compromettre. On n'en saura rien. Mais le gardien peut venir tout à coup et me surprendre, alors cela retomberait sur vous. » « Écoutez, dit le militaire, j'ai une idée que je crois bonne. »« Laquelle ?»« Je vais aller me placer là-bas, tout au fond du couloir, et de là je guetterai le gardien quand il traversera la cour pour revenir. Aussitôt, je reviendrai vite vous prévenir. »« Oh, fameux ! Alors, passez-moi la bouffarde. »« Voilà, je cours me mettre au guet, dit le soldat en allant à l'autre bout du couloir. » Se placer à son poste d'observation. Pour la première fois depuis 15 jours qu'il était dans ce cachot, c'était le seul instant où le sage n'était surveillé par aucun regard. J'ai au moins un quart d'heure devant moi, se dit-il. 20 minutes après, le soldat accourut et criait par le judas : Cachez la pipe, voilà le gardien ! Et sans attendre de réponse, il reprit sa faction devant la porte du cachot. Le gardien arriva et entra dans la cellule voisine d'où il veillait par la grille sur le condamné. Tout à coup, il poussa un cri et ressortit tout effaré. « Ah ça, militaire, cria-t-il, mais vous n'avez donc pas fait attention au condamné ?»« mais si, » répliqua le pauvre factionnaire devenu craintif. « Eh bien, je ne vous complique pas de votre diligence. Venez voir !» Et ouvrant la porte du cachot, il fit entrer le trop complaisant Piou-Piou. Le sage était pendu par sa cravate à un barreau de la fenêtre du cachot. Dès qu'il s'était vu seul, le condamné avait exécuté le projet de suicide qu'il méditait depuis son entrée en prison. Tous les secours prodigués furent inutiles. Comme son complice, le sage échappait à l'échafaud. Épilogue. Il nous reste maintenant à compter ce que devinrent les autres coupables. Nous avons dit qu'en sortant de la dernière audience du tribunal, ces autres condamnés avaient été séparés de Le Sage et Soufflard. Après avoir mené Aliette et Lavolard dans la division des hommes, on laissa les hommes ensemble. Ils devaient attendre jusqu'au lendemain, au dépôt, leur transfèrement à la roquette. La figure de Vico rayonnait de joie. « J'ai retrouvé mon argent !» se disait-il en passant la main derrière sa tête pour palper le collet de sa redingote que lui avait rendu Soufflard. En ce moment, malgré les murs qui séparaient, deux ou trois horribles cris retentirent. Un sourire s'épanouit sur les lèvres du dénonciateur en entendant ses hurlements de douleur. « Oui, répéta-t-il, j'ai mon argent, et je suis rendu ma vengeance complète. » La guillotine était trop douce pour Soufflard. Il n'aurait pas assez souffert. Je lui ai ménagé une agonie un peu soignée. Les cris du bourran se firent entendre encore aux oreilles de Miko, qui continua de rire. « J'avais bien raison de dire que quand t'aurais ma poudre dans le tuyau, tu verrais bien si c'était de la guimauve. Crève comme un chien, mauvais voleur de femmes. » Et tout heureux de son effroyable rancune satisfaite, le coquin se frottait les mains en ajoutant « Oui, crève, pendant que tu seras 5 pieds sous le terreau à têter la laitue par la racine, ton ami Miko trouvera bien avec son argent reconquis le moyen de reprendre la clé des champs et d'aller vivre tranquille dans quelques petits coins. » Tel était le dégoût que le dénonciateur inspirait à ses complices, qu'ils refusèrent de le laisser manger à côté d'eux quand les gardiens apportèrent le repas du soir. Miko fut obligé d'emporter sa gamelle à l'autre bout de la salle commune. Malgré la terrible condamnation qui pesait sur lui, le vieux conservait sa gaieté pendant ce repas. « 20 ans de près, disait-il à ses camarades, on m'a fait bonne mesure. Je vais faire comme les gens riches, je passerai maintenant mes hivers dans le midi. » Bon, ces jours de Toulon n'est pas si bon que ça pour ma santé. Je serais bien passé de l'ordonnance, moi, répliqua le meunier. Ça n'empêche pas que c'est heureux que nous n'ayons pas pu faire bâtir des maisons à Paris, nous aurions été gênés pour toucher nos loyers, ajouta le vieil. À ce moment, leur conversation fut interrompue par un cri de bête fauve. Miko s'était élancé de son coin, et les cheveux hérissés, l'œil hagard. Il arriva sur eux. « Mon argent ! Mon argent ! » répétait-il d'une voix saccadée. Il tenait d'une main sa redingote dont le collet était décousu. Et de l'autre, il agitait un grossier et épais morceau de papier qu'il avait trouvé dans la doublure, quand, tout à l'heure, en se voyant seul, il avait eu l'idée de découdre la partie du vêtement où il avait caché son argent. « mon argent, mais qui a pris mon argent ?» demanda-t-il encore, avec le même ton égaré. « Tiens, t'avais donc un sac ? Toi qui faisais le pauvre ?» s'écria le meunier. « Mais qui m'a pris mon argent ? Quelle est la valeur qui a écrit cela ?» grâce à Miko en agitant le papier. Le vieil le lui arracha des mains et lut tout haut. Si Miko n'avait pas fait le malin avec les amis, au lieu de lui prendre son argent, on en aurait rajouté. Et tous les prisonniers se mirent à pouffer. Miko les regarda un instant d'un air hébété. Puis il partit d'un éclat de rire, mais vibrant et étrange, qui surprit ses compagnons. « On dirait qu'il a le coco qui se fêle, » dit le vieil en l'examinant. « Ouais, il vient de lui pousser un artichaut dans les idées, » ajouta le meunier. Ils avaient raison, Miko était tout à coup devenu fou furieux. Après les premiers soins demeurés inutiles, misérable, fut transporté à Bicêtre où, 6 ans après, il mourut dans une horrible crise, sans avoir jamais prononcé d'autre mot que « mon argent ». Bon, il nous est impossible de suivre chacun des complices de la bande. Disons tout de suite que la Volard et le Vielle moururent avant l'expiration de leur peine. Le Bouchon parvint-il à soustraire les 20 000 francs de Miko à la surveillance de ses gardiens? Comment les dépensa-t-il? Nous l'ignorons. À sa majorité, il sortit de la prison de la Roquette, et un mois plus tard, il se faisait condamner à 2 ans de prison pour vol. Il n'y avait que 5 jours qu'il avait fini de subir cette condamnation, quand éclata la terrible insurrection de juin. Le Mouchereau se mêla aux insurgés, mais pendant que ceux-ci se faisaient tuer sur les barricades, le Mouchereau s'occupait à dévaliser les maisons désertes. Il fut pris sur le fait et fusillé aussitôt au coin d'une borne. Son cynisme n'abandonna pas au dernier instant, car en voyant les fusils s'abaisser vers lui, il eut encore de dire « Voilà des imbéciles qui vont m'abîmer mon gilet de flanelle !» Il nous reste maintenant à dire au lecteur ce que devint Aliette. Quand, après sa condamnation, elle fut transférée de la conciergerie à Saint-Lazare, Aliette, en gagnant la voiture qui allait l'emmener, dut traverser les rangs des policiers chargés de surveiller la mise en voiture du grand convoi de prisonnières, au nombre desquels elle se trouvait. Sur son passage, elle vit se dresser une figure pâle et maigre. C'était le pauvre l'écureuil. « J'attendrai, lui dit-il d'une voix pleine de larmes. » Aliette, dans sa prison, fut un modèle de bonne conduite. Les mois s'écoulèrent lentement pour elle. Quelquefois, en pensant à celui dont l'amour l'avait rendue meilleure, le désespoir prenait la prisonnière, qui alors tentait l'épreuve des boulettes. Cette épreuve des boulettes est la bonne aventure des prisons, et voici comment elle se pratique. Le prisonnier fait autant de boulettes de mie de pain qu'il veut adresser de questions au sort. Chaque question est écrite sur un mince papier qu'on enferme dans une boulette, puis on les jette dans un verre d'eau. La réponse du sort est donnée par la première boulette que l'humidité fait entrouvrir. Aurais-je mon temps? Dois-je mourir en prison? Aurais-je une remise de peine? Telles étaient d'ailleurs les 3 questions que la pauvre Aliette posait à l'oracle, qui toujours répondait par la boulette de la remise de peine. Et pourtant, 3 années s'étaient déjà écoulées. Mais le roman amoureux du brave policier avait transpiré parmi ses chefs. On s'intéressait à ce garçon si intelligent, si actif, et comme la conduite de la prisonnière témoignait un sincère repentir, il arriva qu'un beau matin, l'écureuil fut appelé chez son chef. Ce chef ne lui dit qu'une seule phrase, mais elle suffit pour faire bondir de joie l'amoureux policier. 1 heure après, ayant donné sa démission, et porteur de ses économies accrues par un récent petit héritage, l'écureuil attendait à la porte de Saint-Lazare la sortie d'Aliette, à laquelle la clémence royale faisait remise du reste de sa peine. Aliette parut toujours belle. À la vue de l'écureuil, elle pâlit. L'amoureux marcha vers elle et lui dit d'une voix que l'anxiété faisait trembler « Tu as 27 ans, Aliette. À cet âge, on peut encore recommencer sa vie. » Veux-tu suivre dans cet homme qui ne te rappellera jamais le passé ? » Aliette était trop émue pour répondre, mais elle posa sa petite main sur le bras de l'écureuil. Le soir même, ils avaient quitté ce Paris qu'ils ne devaient plus revoir. Fin.